Mais bonjour à tous et à toutes. Je suis très content de faire cette présentation et donc que j'ai intitulé « Les sciences sociales à la rescousse de l'informatique ». Donc moi, je suis informaticien, plutôt de formation ingénieur, et je fais une thèse en informatique, mais je me suis dit qu'il fallait absolument intégrer les sciences sociales, même si je n'ai pas forcément de formation dessus. Donc je vais essayer de vous montrer ce que j'ai fait pour essayer de le faire. Et puis bon, j'espère qu'il n'y a pas de sociologue dans la salle, comme ça je ne risque pas de me faire engueuler. Donc voilà, donc je peux encore dire que je suis en deuxième année de thèse parce que je commence ma troisième année à la fin de cette semaine. Je suis à l'équipe CEPIA à Toulouse et mes encadrants sont Jean-Marc Pierson et Georges Lacosta. Cette slide qu'on a déjà vue, en fait, hein, pour montrer que finalement, quelle que soit la façon dont on prend le problème, d'après les projections, l'informatique en termes d'émissions de CO2, tous les gens ne sont pas d'accord sur les chiffres, mais au moins ils disent tous que ça va au moins soit rester stable, soit augmenter. Or, il faudrait qu'on divise par 7 à gauche. Donc, quelle que soit la façon dont on prend le problème, il faut faire quelque chose, à moins évidemment qu'on table sur le fait que l'informatique va nous aider à réduire de 30 dans les autres domaines, ce qui paraît relativement utopique. Donc, d'habitude, pour gérer ce problème-là, nous, les ingénieurs et les informaticiens et les chercheurs, on s'intéresse à l'efficacité, et donc en particulier, par exemple, dans mon équipe, l'efficacité dans les systèmes distribués, donc dans les data centers. Donc il y a plein de trucs à faire, là j'en ai mis trois. On peut faire de l'efficacité énergétique, donc par exemple, utiliser de la virtualisation, l'UDVFS, etc. On peut aussi utiliser des sources d'énergie renouvelable. Alors il y a plein de trucs marrants à faire aussi. On peut shifter les workloads entre différents pays pour suivre le soleil, etc. Et puis on peut travailler aussi sur l'environnement des data centers, par exemple sur le cooling, etc. Bon, très bien. Et donc, voilà, c'est gagné. On avait un data center qui consommait beaucoup d'énergie, puis il consomme moins d'énergie après. Et donc on a l'impression d'avoir résolu le problème. Sauf que moi, je pense qu'a priori, l'image, elle ressemble plutôt à ça. C'est-à-dire qu'on a réduit l'énergie par data center, mais à côté, il y a plein d'autres data centers qui sont venus. Et souvent, d'ailleurs, quand Google dit « Ah, on a un data center nouveau, il consomme beaucoup moins d'énergie. Vous avez fait quoi avec l'ancien data center ? Ah, ben, il fonctionne encore, ouais, parce qu'on en a besoin, parce qu'il faut répondre à la demande. Bon. » Donc cet effet rebond dont on a aussi déjà parlé. Et donc, bon, cet effet rebond, le problème, c'est que en tant qu'ingénieur, informaticien, etc., on n'est pas du tout équipé pour y faire face, parce que ça demande en fait de se tourner vers les besoins, hein, ce qu'on appelle d'ailleurs les besoins, parce que est-ce que c'est des besoins finalement ? Est-ce que c'est des besoins nécessaires, essentiels ? Mais ça, je pense que les sociologues justement peuvent peut-être plus nous aider à répondre à cette question-là. En tout cas, nous, on crée des choses et on dit, bah, ce sera la politique, ce sera la société qui verra comment l'utiliser. Et donc, j'essaie de me poser la question pendant ma thèse, est-ce qu'on peut quand même faire quelque chose ? Est-ce qu'on peut quand même essayer de prendre en compte cet effet rebond, etc. Donc, ça pose la question, finalement, de passer de l'efficacité à la sobriété, en français, efficiency, sufficiency, en anglais. Sufficiency qui a par exemple apparu dans le dernier rapport du GIEC en 2022, enfin, comme un levier pour résoudre les crises environnementales, c'est-à-dire de plus se poser la question uniquement de l'efficacité, mais finalement aussi de la quantité absolue de ressources utilisées, et donc finalement de se concentrer sur les besoins. Donc finalement, les leviers de sobriété, c'est pour éviter la consommation de ressources, tout en gardant, si on prend par exemple le donut de Kate Raworth que les gens connaissent ici, donc c'est finalement essayer de définir un plancher social, donc les minimums, les besoins essentiels, on va dire, et un plafond environnemental à ne pas dépasser, quoi. Très bien, bon, alors ça veut dire quoi, la sobriété dans les data centers ? C'est quoi un data center sobre ? Le plafond environnemental, il faudrait faire justement utiliser l'analyse de cycle de vie, etc., puis fixer une barrière, une limite. Et puis les social foundations, like le plancher social, et c'est là où il faudrait invoquer des travaux de sciences sociales pour finalement aller demander aux gens, c'est quoi vos besoins essentiels en informatique finalement. Bon. Dans ma thèse, j'ai fait par exemple des travaux de simulation pour étudier comment un utilisateur de data center peut adopter des comportements différents, d'accord, de soumission de tâches, et par exemple renoncer à certaines tâches, dire mais finalement cette tâche j'en veux pas, et comment ça va influer sur la load, sur la charge dans ce data center. Donc c'est un travail assez technique. Et là, donc je suis parti pendant 2 mois et demi à Amsterdam chez une chercheuse, Patricia Lago, plutôt dans le domaine software engineering, mais qui a utilisé aussi des techniques justement de sciences sociales, dont je vais vous en présenter une après, dans ses travaux, donc pour monter en compétence là-dessus, et faire du coup une étude qualitative en utilisant une méthode de focus group qu'on a appelée Digital Sufficiency, donc sobriété numérique, in flexible work. Alors c'est parti, je vais vous expliquer ce qu'on a fait. Donc, moi, mon idée, c'était d'étudier cette notion de sobriété numérique et d'aller de faire ça avec des méthodes de sciences sociales, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, il fallait définir un cadre. On a mis le focus sur déjà l'utilisation professionnelle des technologies, voilà. Et puis aussi, parce que pour un intérêt commun, on s'est concentré sur le cas du flexible work, donc du travail à distance. Alors c'était aussi parce que il y a eu le Covid, etc. Mais c'est aussi parce que c'est un domaine où l'informatique peut avoir un effet positif en permettant aux gens de moins se déplacer et en utilisant les nouvelles technologies pour faire des réunions à distance ou des choses comme ça. Bon voilà, donc en tout cas c'est le cadre qu'on s'est fixé. Et donc, quelle quantité d'informatique est suffisante dans le cas d'une utilisation professionnelle flexible ? Voilà la question qu'on a essayé de creuser. Donc on a essayé de la subdiviser en plus petit. Donc déjà il fallait commencer par dire, bon, mais qu'est-ce qu'on fait sur nos ordinateurs tous les jours ? Donc recenser un petit peu les usages. Parmi ces tâches, ah oui, j'ai oublié de dire que moi, je restais quand même un petit peu avec un lien avec data center, donc je m'intéressais à la partie cloud, on va dire. Parmi ces tâches, lesquelles sont basées sur son cloud-based, sont sur le cloud. Et enfin, parmi ces tâches, lesquelles sont perçues par l'utilisateur comme nécessaires et lesquelles sont perçues comme superflues par l'utilisateur. Et grâce à ça, identifier des tactiques vers une sobriété, vers plus de sobriété. Donc, j'ai expliqué la méthode parce que je pense que c'est intéressant pour les gens, parce que moi j'ai tout découvert, et donc je me dis que c'est intéressant pour les gens dans cette salle aussi qui veulent savoir un peu comment ça peut marcher. Donc j'ai utilisé des focus groups. Des focus groups, c'est des interviews de groupe. Donc c'était des groupes de 4 à 6 personnes, donc en fait avec des partenaires dans des entreprises, hein, j'en ai fait 3. Donc 3 groupes de 4 à 6 personnes, pas forcément en l'occurrence, pas forcément, c'était pas des experts, c'est vraiment des, enfin nous on n'a pas visé d'avoir des experts, donc vraiment des gens qui juste travaillent au quotidien, quoi, la RH, etc. Donc en tout ça m'a fait un total de 11 participants et chaque session elle dure 2 heures, alors j'ai une slide après, ouais, bon, oui, donc... Oui, on va regarder ça. Donc en gros, donc j'ai fait 3 sessions de 2 heures, donc ça me fait 5 heures d'enregistrement. Donc j'enregistre ces sessions-là. Après ça, je transcris textuellement tout ce qui a été dit pendant ces interviews. Ensuite, je code. C'est-à-dire, certaines phrases, je dis, ah ben ça se réfère à ma question numéro 1, c'est plutôt dans la catégorie nécessaire, c'est plutôt dans la catégorie sufficient. Donc ça, c'est un travail d'analyse de données, donc on peut faire avec un logiciel comme ça, par exemple, où on peut cliquer sur des paragraphes et rajouter des codes, etc. Et enfin, tous ces codes, ça en fait beaucoup, on les arrange par thème, donc ça, c'est l'analyse thématique, et on arrive ensuite à avoir une structure, voilà, et on présente les résultats comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai posé comme question à ces participants de ces focus groups ? Donc, dans votre travail, s'il vous plaît, listez-moi les tâches que vous faites. Qu'est-ce que vous faites sur votre ordinateur tous les jours ? Donc, c'était un peu brainstorming. Ensuite, on passe en dessous. Parmi ces tâches-là, lesquelles pensez-vous sont basées sur Internet ? Cloud-based, pas cloud-based. Bon, c'était plutôt lesquelles sont sur Internet, concrètement. Et puis ensuite, on repasse en revue ces tâches-là. Et puis, donc voilà, donc, OK, online meeting sur Zoom. Bon, est-ce que tu pourrais faire autrement? Est-ce que tu trouves que c'est nécessaire? Qu'est-ce que tu trouves? Quelle est l'essence dans cette tâche que tu veux garder? Qu'est-ce qui fait que tu fais cette tâche, ce meeting online, par exemple? Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter quelques résultats. Alors déjà, pour commencer par cette collection des usages du numérique dans le cadre professionnel et dans le cadre de flexible working, voilà, c'est parmi nos 11 participants, c'est toutes les tâches qui sont sorties. Donc on a, ça vous étonnera pas, hein, des emails, envoyer des messages, planifier, online meeting, donc faire des réunions en ligne, etc., etc. Trouver des informations sur Internet, prendre des notes, etc. Et donc parmi ces tâches-là, on s'est rendu compte chez nous, hein, donc chez les participants qu'on a eus, alors il faut savoir que c'était aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, c'est très digitalisé, c'était des entreprises qui étaient plutôt très à la pointe, par exemple au niveau du travail à distance, donc tout le monde était flexible, etc., etc. Donc en fait, la quasi-totalité de leurs tâches était cloud-based d'une façon ou d'une autre, quoi. Plus personne n'écrit sur son disque dur, plus personne ne prend des notes sur son disque dur en local, quoi. Je veux dire, tout le monde avait des voilà, utilisé le cloud d'une façon ou d'une autre. Enfin, il y avait un backup derrière ou quelque chose. Et donc, en fait, parmi ces tâches, on a identifié que il y en avait trois types. Certaines utilisaient le cloud de façon interactive, c'est-à-dire on a besoin d'une connexion Internet constante. Par exemple, je suis sur un Google Doc, si je perds la connexion Internet, bam, je peux plus réécrire, quoi. Tentative de reconnexion. Donc ça, c'était vraiment, on a besoin d'une connexion Internet constante. Certaines pouvaient être faites en local, mais avec des synchronisations périodiques, et d'autres qui étaient complètement en dehors du cloud, même si nous, on n'en a pas identifié beaucoup dans nos exemples. Et donc, une première suggestion qu'on fait vers plus de sobriété, c'est d'essayer de bouger de cette première catégorie à la deuxième catégorie, ou de la deuxième à la troisième. Si vous utilisez quelque chose en interactif, peut-être le bouger en faire un backup tous les jours, et si vous utilisez un truc qui fait un backup tous les jours, peut-être le bouger en juste sauvegardez-le sur votre disque dur. Voilà. Donc ça, c'est ce genre de suggestion qu'on a fait tout au long du travail. Enfin, voilà. Et par rapport au lieu de travail des participants, donc on a classifié les résultats en deux pôles. C'était l'un, c'était parfois on choisit notre lieu de travail en fonction des tâches qu'on va exécuter, et parfois on se trouve à un endroit et on va choisir nos tâches en fonction de l'endroit où on se trouve. Donc, exemple, j'ai un meeting en présentiel avec des collègues, je vais au bureau. Et après, vu que je suis au bureau, je vais faire quelque chose d'autre. Donc, par exemple, un lieu de travail qui était très spécial, qui était très différent des autres, c'était le train. On s'est rendu compte que les gens, quand ils étaient au bureau, quand ils étaient chez eux, quand ils étaient chez un client, etc., finalement, ils faisaient la même chose aujourd'hui. Ils faisaient quand même des meetings, ils écrivaient, ils prenaient les notes, ils faisaient la même chose. Non, mais par contre, dans le train, c'était un peu différent, parce que on peut être dérangé, on veut pas, s'il y a des informations confidentielles, voilà, c'est compliqué, on fait pas de meeting dans le train, etc. Et que finalement, par exemple, il y avait une participante qui disait que elle, le train, c'était pas mal, ça lui permettait de se concentrer, ça lui permettait de finalement d'avancer sur certaines tâches assez individuelles, etc. Et donc on s'est rendu compte que parfois la contrainte du milieu permettait justement d'être plus efficace et aussi de potentiellement consommer, être plus sobre entre guillemets, même si il y a aucune tentative de quantification de tous ces leviers. Voilà, donc, par exemple, si je prends l'exemple, et ensuite, donc je vous avais dit qu'on demandait aux participants, pour chacune des tâches, dire est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est pas nécessaire. Alors, spoiler alert, tout le monde trouve que tout est nécessaire, voilà, donc tout ce qu'on fait est absolument nécessaire. Non, j'exagère, mais on a identifié beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'extraits d'entretien de gens qui disent « Ah mais ça, j'en ai absolument besoin, ça, j'en ai absolument besoin. » C'est rare que les gens disent « Non mais ça, c'est superflu. » Mais bon, quand même, par exemple, si on prend l'exemple des meetings online, nos participants, il y en avait, c'était 80% de leur temps passé dans des réunions Zoom. 80% de leur temps. Et donc c'est vrai qu'on a quand même ce truc de ouais bon c'est vrai qu'on a beaucoup on fait beaucoup de meetings quand même, il y a des moments où ils servent un peu à rien, ils sont un peu longs, il y a des moments où on a des meetings réguliers mais en fait il se passe rien, donc en fait on se connecte mais il y a rien à rajouter. Ensuite on a plein de logiciels de meetings différents, on sait plus lesquels choisir. Bon. Et donc finalement c'est intéressant d'identifier. Ouais, je vais essayer de conclure. C'est intéressant d'essayer d'identifier à quoi vraiment sert ce meeting avant de le faire. Et par exemple, quelques tactiques vers la plus de sobriété qu'on a identifiées, c'est préparer un meeting. C'est bête à dire, mais préparer un meeting, avoir un ordre du jour, etc., pour rendre le meeting efficace, économiser l'énergie de tous les participants. Je vous inviterai à regarder l'article qui est encore en soumission, là, un comité de lecture à ICT4S. Donc, on croise les doigts, la réponse c'est vendredi. Après ça, vous pourrez le lire. Donc, il y a toutes ces tactiques-là qu'on a identifiées. Il y en a plein, il y en a 48. On a essayé de les classifier. Vous voyez, c'est aussi large que mettre un quota sur votre boîte mail ou préparer avant un meeting, comme je vous l'ai dit. Et donc, en conclusion, donc voilà, on a essayé humblement, j'ai essayé humblement d'inclure les sciences sociales. Alors après, comment est-ce que je vais pouvoir faire le pont derrière entre ces résultats-là et la partie technique, simulation de mon travail, c'est pas facile, parce que la chaîne entre l'utilisateur final et le data center, elle est longue. Et je vous invite, si ça vous intéresse, à regarder cet article de 2022 sur Digital Sufficiency, sobriété numérique, qui est très intéressant et qui explique, qui essaie de faire une matrice multidimensionnelle de la définition de ce que serait la Digital Sufficiency et la séparer en ces quatre pôles. J'ai pas le temps d'en discuter, mais je vous invite à le regarder ou à me poser des questions si ça vous intéresse. Voilà. Merci.